L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi, en rediffusion à 18h. Une émission en noir et jaune avec des écailles, enfin pas vraiment des écailles, une queue, des pattes griffues, mais pas de feu craché. On dirait un joli dragon, un petit dragon. C'est avec plaisir que nous retrouvons l'association Bretagne Vivante qui vient nous raconter les autres êtres vivants. Aujourd'hui c'est herpétologie, reptiles. La salamandre est l'héroïne du jour. Nous l'examinons en compagnie de Julie Bonenfant, éducatrice à la nature à Brest. Sur les salamandres, autour de l'opération Un dragon dans mon jardin, il y aura une opération de science participative à laquelle Bretagne Vivante s'associe. Bonjour Julie.
Bonjour.
Bon, j'ai peut-être dit des bêtises dans mon introduction sur les pattes griffues, hein. Vous allez rectifier ça. Et vous allez justement nous faire le portrait de cette salamandre. Et déjà, en commençant par l'évolution, l'arbre de l'évolution, enfin, quand je dis la salamandre, c'est les salamandres. Il y en
oui,
a plusieurs.
C'est ça. Mais on n'en a qu'une par chez nous.
Voilà.
Donc les salamandres, elles font partie du groupe des amphibiens, anciennement appelés les batraciens. Et donc elles font partie de la classe des vertébrés tétrapodes, ça veut dire qu'ils ont quatre membres. Et donc ils ont un squelette interne, et la grande majorité ont quatre membres et pondent des œufs, sauf l'exception de notre salamandre, on verra tout à l'heure.
Elle a plusieurs exceptions, ouais, d'ailleurs.
C'est ça. Et donc, le terme amphibien, il provient du grec amphi, qui va signifier double, et bios, qui va dire vie. Et donc, ça veut dire que ça fait rappel à sa double vie, qu'elle va avoir une phase aquatique au stade larvaire, et puis une phase terrestre au stade adulte. Et donc, les amphibiens, ça va être les premiers vertébrés à avoir colonisé le milieu terrestre, et donc les premiers capables de respirer comme dans l'eau.
Alors, sauf que voilà, la salamandre, on verrait qu'elle ne peut pas tout le temps respirer dans l'eau.
On va l'expliquer après, mais du
voilà.
Coup, c'est ça.
Ouais.
Et donc, les salamandres, enfin les amphibiens en général, vont quand même garder une dépendance au milieu aquatique. Mais souvent, on considère que les salamandres, les grenouilles, les crapauds doivent être dans le milieu aquatique. Mais en fait, elles vont avoir qu'une phase de leur vie. Et des fois, c'est vraiment une phase courte.
Oui. Et c'est pas des reptiles alors, les amphibiens.
Les amphibiens sont pas des reptiles, c'est ça. La classification, elle s'est modifiée au fur et à mesure des connaissances qui ont augmenté.
Et il n'y a pas d'écailles en ce qui concerne
les amphibiens. Elles n'ont pas d'écailles. Les amphibiens n'ont pas d'écailles, c'est ça.
Contrairement aux dragons, bien sûr, qui en ont, enfin, quoi que ça dépend. Et en fait, elle est lisse alors, la peau de la salamandre, c'est ça?
La peau de la salamandre, elle va être lisse. Et elle va être nue, et donc ça va lui permettre d'être perméable à l'eau. Et donc la salamandre, elle va sécréter un mucus qui va permettre de garder toujours sa peau humide, donc la plupart des amphibiens aussi. Et donc cette peau, c'est à travers cette peau aussi qu'elle va respirer. Elle va avoir les amphibiens adultes vont respirer à l'aide de poumons, mais ils peuvent aussi respirer à travers la peau.
Et il y a quand même des points communs entre les amphibiens et les reptiles, notamment sur la température, c'est ça?
C'est ça, parce que du coup, on dit que c'est des animaux du coup, qui ne régulent pas la température de leur corps, donc la température, elle va varier et elle va être dépendante du coup, des conditions climatiques et météorologiques de l'endroit où elles vivent.
Et les amphibiens eux-mêmes se divisent en deux ordres, c'est une classe les amphibiens.
C'est ça. Et donc il va y avoir deux ordres, on va d'abord avoir l'ordre des anoures, qui vont être plutôt, c'est eux qui vont être plutôt majoritaires en France. Et donc les anoures, ça va être des amphibiens qui vont perdre leur queue après la métamorphose. Et donc les œufs vont être pondus souvent en amas ou en cordon, qui vont être composés... Et du coup, ça va être soit en amas, soit en cordon. Et du coup, ça va être un groupe, ça va être l'ordre qui va être composé par les grenouilles, les crapauds. Et puis de l'autre côté, on va avoir les urodèles, qui vont garder leur queue à l'âge adulte. Et souvent, les œufs vont être pondus individuellement, ou alors ça va être directement des larves dont la femelle va mettre bas.
qui vont sortir. Il n'y a pas de chapelet d'œufs comme pour les crapauds, par exemple.
Et donc, ça va être le groupe des tritons et des salamandres. L'ordre, enfin, du coup, ça va être l'ordre des tritons et des salamandres.
Donc, la salamandre, enfin, les salamandres sont des urodèles. Et combien il y a d'espèces de salamandres en tout, enfin,
En tout, du coup, nous, en Bretagne, on n'a que la salamandre tachetée. Et après, du coup, par exemple, en Corse ou dans d'autres coins, il va y avoir d'autres espèces.
Alors là, salamandre tachetée, c'est donc elle que nous allons décrire. C'est ça. À quoi ressemble-t-elle ? Quelle est tachetée ?
Donc vous l'avez déjà peut-être déjà croisée. Et donc la salamandre tachetée, elle va être très facile à reconnaître parce que du coup, elle fait à peu près maximum une vingtaine de centimètres. Elle va être reconnaissable à ses taches jaunes, rarement orangées sur un fond noir.
Et parfois c'est orangé quand même.
Ouais, c'est très rare, mais ça peut arriver. Et donc, ces couleurs-là, ça va être ce qu'on appelle des couleurs aposématiques. Et donc, ça veut dire que ça va être des couleurs vives qui vont être très visibles et qui vont permettre de signaler aux autres animaux et notamment aux prédateurs que celle-ci, ça va signaler un danger. Et donc, c'est pour signaler notamment que du coup, elle est capable de sécréter une substance amère et toxique à celui qui tenterait de la croquer.
Et ce motif jaune et noir, il n'y a pas du tout de salamandre pareil dans la nature
C'est ça, ouais. Souvent chez les amphibiens, donc, et notamment chez la salamandre, chaque individu va avoir son panel de taches différentes et du coup ça permet d'individualiser les individus. Donc ça veut dire qu'on peut reconnaître un individu si on le photographie et si on compare les taches.
Et elle a une peau qui brille. Enfin, qui brille.
Luisante, oui.
Oui, c'est souvent spectaculaire de voir une salamandre, d'ailleurs, pour cette raison.
Ouais.
Alors, justement, ce fameux poison, il est où ?
Et peut-être juste avant, du coup, ouais. On ne peut pas la confondre avec les tritons, parce que du coup, les tritons vont plutôt avoir une queue aplatie, alors que la salamandre va avoir une queue ronde.
Puis, de toute façon, les tritons, ils sont marbrés, ils ne sont pas tachetés, ils n'ont pas ce jaune.
Ils ne vont pas avoir la même couleur,
ouais,
non, c'est ça.
D'accord.
Et donc, par rapport à ce poison, du coup, elle va avoir deux glandes juste derrière les yeux. Et donc, ces glandes, ça va être les petits bourrelets un petit peu qu'on va observer. Et donc, elles vont sécréter un lait qui va être amer et toxique. Et donc, ça va être un moyen de se protéger, de se défendre, notamment, par exemple, du hérisson, du blaireau ou d'autres prédateurs qui voudraient la manger.
La croquer. Et donc, elle sécrète, mais elle ne l'envoie pas, elle ne projette
pas. Non, c'est
pas.
Ça. Elle sécrète sur sa peau.
Donc, si on la croque, tout de suite, on sent le lait et ça ne va pas trop. D'accord.
Donc, pour nous, c'est inoffensif. Mais du coup, de toute façon, on en reparlera tout à l'heure. Ouais. Du coup, l'idée, c'est de les observer avec nos yeux sans toucher les amphibiens.
C'est ça. Et les larves ressemblent aux adultes ou pas du tout ?
Donc, les larves, ça va être du coup, chez la salamandre, ça va être des miniatures de l'adulte. Mais du coup, elles vont être moins colorées. Et donc, souvent, on peut les confondre avec les larves de triton, parce qu'elles vont mesurer, au départ, elles vont mesurer 2 à 3 cm. Et puis, une fois qu'elles vont passer, elles vont sortir de l'eau, elles vont faire à peu près 6 cm. Et donc, elles vont avoir des branchies externes qui vont être très visibles. Et pour les reconnaître par rapport à des larves de triton, en fait, il faut regarder la base des pattes. Il va y avoir une petite tache jaune à chaque base de patte. Et du coup, ça permet de vraiment discerner la larve de salamandre de la larve de triton.
Oui, ça c'est quand on est déjà un peu expert. Alors, il y a des mythes et légendes qui sont attachés à la salamandre, mais on va peut-être y revenir un peu plus tard. Quand on parlera de ses super pouvoirs, la biologie de la salamandre, enfin ça, son mode de vie, c'est quoi ?
Du coup, elle va être ça va être une espèce qui va être très discrète et qu'on va plus facilement voir la nuit ou au crépuscule. Et souvent, après une journée de pluie, par exemple, elle va aimer l'humidité. Bien qu'elle soit dépendante d'un point d'eau pour sa reproduction, la salamandre, faut savoir qu'elle nage très mal à l'âge adulte. Et elle est capable de... Enfin, et souvent, on peut la retrouver noyée dans un point d'eau si elle n'a pas d'issue pour sortir.
Ah.
Si c'est trop abrupt, s'il n'y a pas une...
Ouais, si elle tombe dans le lavoir, c'est pas terrible,
c'est ça,
s'il n'y a
c'est
pas
pour
des
ça
rebords.
Que souvent, c'est bien de laisser des pierres dans le lavoir ou un rebord avec de la mousse ou autre pour qu'elle puisse.
C'est pour ça que si on fait une mare, il ne faut pas que les pentes de la mare soient trop raides.
C'est ça.
Aussi.
Et donc, elle va. Du coup, pendant la période favorable, c'est-à-dire à peu près février à novembre, elle va sortir de sa cachette le soir pour aller chasser des vers de terre, des limaces et autres invertébrés. Et puis, la salamandre, elle va aller se cacher dans sa face terrestre. Elle va à chaque fois se cacher dans des anfractuosités du sol, dans les galeries de micro-mammifères, etc.
Elle mange uniquement de la viande, hein, enfin de la viande.
elle est carnivore, oui.
Elle est carnivore des insectes, des araignées, des limaces. C'est intéressant d'avoir une salamandre dans son jardin quand on a trop de limaces.
C'est le compagnon du... Ça peut être elle peut tenir compagnie au jardinier, elle peut l'aider à condition que le jardinier mette aussi à disposition un endroit pour se cacher, faire attention à ne pas utiliser de produits chimiques dans son jardin pour qu'elle puisse avoir son alimentation et puis qu'elle ait à proximité un point d'eau pour pouvoir mettre bas ses petits.
Et l'hiver, en fait, elle est quand même pas en hibernation, mais pas loin, enfin, c'est
ouais,
ça.
Elle va vraiment réduire son activité, elle va avoir une activité très lente l'hiver en fonction des températures, vu qu'elle ne peut pas réguler sa température, elle va vraiment s'adapter en fonction du climat local, elle va plus ou moins être active.
Comment se reproduisent les salamandres? Ça aussi, c'est un peu original.
Ouais. Donc, les salamandres, elles vont se reproduire... toute l'année, et du coup, il va y avoir deux périodes intenses, donc à l'automne et au printemps. Donc, il faut savoir que l'accouplement, contrairement aux crapauds, aux grenouilles ou aux tritons, l'accouplement, il va être terrestre et pas aquatique. Et donc, ça va être entre juillet et septembre. Et donc, le mâle va repérer la femelle par son odeur. Et du coup, après un amplexus, donc c'est-à-dire que le mâle va enlacer la femelle et va s'accrocher sur ses pattes avant. Et du coup, il va ensuite déposer un sac de spermatozoïdes qui va inciter la femelle à le récupérer et à le mettre dans son cloaque pour que...
Ah oui, c'est elle qui doit faire la démarche. Enfin, si elle ne le veut pas, elle le laisse par terre, en gros. Ah d'accord,
ouais.
Ok.
Et donc, ça va être une fécondation interne. Et puis donc, à partir de février, les premières femelles, donc on les appelle, elles vont avoir une fécondation... Ça va être des groupes ovovivipares, ça veut dire que du coup, les femelles, elles vont garder les œufs à l'intérieur de leur partie génitale.
C'est quand même des œufs, mais c'est à l'intérieur.
Mais du coup, l'œuf va évoluer dans le corps de la femelle, et une fois que les larves sont arrivées l'œuf est arrivé à maturité, et du coup, la femelle va aller à un point d'eau, va migrer vers un point d'eau pour mettre bas. Et donc, ça va être des mini salamandres directement qui vont être dans l'eau.
Ah ouais. Donc, 3 cm à peu près, la mini salamandre, est absolument dans l'eau, puisque en fait, ces larves ne respirent que dans l'eau.
Les larves ont des branchies, et donc elles vont elles vont vivre exclusivement dans l'eau. Et donc, à chaque fois, la femelle, elle va, par saison, elle va produire environ une quarantaine de larves qu'elle va éparpiller dans différents points d'eau pour améliorer le succès reproductif. Mm-hmm. Et donc les points d'eau, ça peut être des lavoirs, des ornières, des fossés, des ruisseaux à courlans.
Même des ornières, ça peut suffire.
Des ornières, ça peut suffire, oui.
Pas forcément un énorme point d'eau, alors.
Non.
Mais c'est quand même une période dangereuse pour la mère salamandre. Hein, parce que, donc,
À l'automne, du coup, avec sa migration, et puis du coup, comme la salamandre, du coup, elle va venir déposer les larves, et du coup, elle va pas réussir à rester longtemps dans l'eau, et du coup, elle pourrait vite se noyer. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait
qu'elle fasse vite
un accès facile pour sortir.
Et les larves, elles restent combien de temps dans l'eau avant de se développer en adulte?
Du coup, elles vont rester dans le milieu aquatique 3 à 5 mois en fonction de la période où elles ont été. Où elles ont été déposées.
Et automne donc, ou printemps.
C'est
voilà.
Ça, automne ou printemps, parce que du coup, il va y avoir deux...
Ouais. Et l'automne, c'est pas plus critique pour elles, l'eau n'est pas trop froide.
Non, du coup, les larves, elles vont être adaptées pour passer l'hiver au fond de l'eau. Et donc, il faut savoir que les larves, elles ont la particularité aussi, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais de prendre la couleur du substrat, et donc elles peuvent se camoufler... Elles peuvent s'éclaircir ou se...
Parce que sinon, elles seraient mangées facilement, j'imagine. Par quoi? Des poissons
Elles peuvent être prédatées par des poissons. Déjà, s'il y a des poissons, il y aura peu de chances de voir des larves de salamandre, mais ça peut être aussi prédaté par des larves de libellules. Ah oui.
Voir des oiseaux.
Voir des oiseaux, ouais. etc. Mm-hmm. Ouais.
Et sinon, si elles ne sont pas prédatées, une fois adultes, elles vivent très longtemps, en fait, hein, les salamandres.
Elles peuvent vivre jusqu'à 20 ans en milieu naturel.
Et milieu naturel, donc milieu habitat privé prédilection, c'est quoi pour la salamandre tachetée ?
Donc les salamandres tachetées, bah, on peut en trouver un peu partout, à condition qu'il y ait suffisamment de nourriture, suffisamment d'endroits pour se cacher. Et puis un point d'eau à proximité. Et donc, on va les trouver majoritairement dans des forêts de feuillus. On va pouvoir les trouver dans les haies bocagères, mais on peut aussi en observer dans nos jardins, où elles vont se cacher sous les feuilles mortes, sous les souches, sous les pierres, etc.
Alors, on lui attribuait des super pouvoirs. Cette salamandre, elle a même été utilisée dans la symbolique. Enfin, le roi François Ier, par exemple, avait choisi la salamandre comme symbole. On disait qu'elles étaient insensibles au feu, qu'elles vivaient des centaines d'années, qu'elles étaient venimeuses. Bon, on a vu que c'était partiellement vrai, mais enfin bon, qu'elle était malveillante, la pauvre. Donc ça, c'est faux. Hein. Elle n'est pas insensible au feu.
Non, c'est ça.
Voilà. Elle ne vit pas des centaines d'années, 20 ans, c'est déjà bien. En revanche, elle a quand même des super pouvoirs.
Ouais, c'est ça. Elle va avoir quand même des super pouvoirs, et notamment elle est capable de régénérer ses membres s'ils sont abîmés ou s'ils ont été coupés.
Ah oui, tous ses membres, enfin toutes les pattes, la queue,
les
tout
pattes,
ça.
La queue, ça peut être aussi un organe qu'elle est capable de régénérer.
Ah oui, contrairement au lézard qui ne peut régénérer que sa queue, c'est ça, non ? Oui, et elle a d'autres pouvoirs.
Et donc elle va aussi être capable de résister à des gels légers ou courts. Et puis, du coup, elle va être capable elle est capable de sécréter un poison, une toxine défensive. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, les larves, elles peuvent aussi, grâce à leurs cellules pigmentaires, changer de couleur pour se confondre dans leur environnement.
Uniquement les larves. C'est après, ça. Les adultes ne changent pas de couleur. Non, hein, c'est pas des caméléons.
Non, mais comme elles font le signal de « attention, je ne suis pas bonne à manger », donc ça leur permet d'être moins prédatées.
Où est-ce qu'on la trouve en Bretagne, la salamandre tachetée ? Enfin, même pas seulement en Bretagne, d'ailleurs.
Du coup, elle va avoir une répartition en Europe centrale, de l'Ouest, méridionale et du Sud-Est. Et du coup, elle va être en France, elle va être assez bien, assez commune. Elle va être juste absente de Corse, des Landes et puis de la bordure méditerranéenne. Et nous, en Bretagne, elle est assez commune, on la trouve partout. Sauf une exception sur les îles.
Oui, elle n'a pas réussi à nager puisqu'elle nage mal.
Elle n'a pas réussi à nager ou alors...
personne ne l'a amenée là-bas.
Personne ne l'a emmenée sur les îles.
Et comment va-t-elle ? Comment vont les populations de salamandres tachetées ?
Donc les populations de salamandres, même si on a un petit peu de connaissances, c'est toujours on manque toujours de connaissances. Et c'est pour ça qu'il y a on va en parler après, des protocoles de sciences participatives pour améliorer la connaissance et savoir si, des fois, est-ce que c'est des manques de données, ou est-ce que c'est des manques de prospection, ou est-ce que c'est vraiment une absence de l'espèce. Mais il faut savoir que sur le territoire du pays de Brest, les suivis qui ont été faits et les données qu'on a, on remarque qu'elle est absente des zones bocagères qui ont été remaniées.
Ah oui.
Mais par contre, on peut la retrouver dans les endroits favorables si on la recherche.
Oui, donc elle est pas, elle est en régression. Hein, c'est...
Mais globalement, à l'échelle... globale, elle est en régression.
Oui, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, qui la qualifie de en régression. Donc, c'est pas encore il n'y a pas encore d'alerte rouge, mais bon. Et elle est notamment victime d'un champignon, la pauvre.
Oui, donc elle va avoir plusieurs menaces, et notamment un champignon qui a été découvert en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne. Et donc, c'est le chytrid, le batrachochytridium.
Chytrium.
C'est
pas facile à dire.
Salamandre ivorance. Et littéralement, ça veut dire le dévoreur de salamandre. Et donc, c'est un champignon qui va s'installer sur la peau de la salamandre et qui va à terme créer qui va entraîner des altérations physiologiques.
Un peu comme une lèpre, en fait.
Et du coup, ça peut arriver jusqu'à la mort de l'individu.
Et on ne sait pas trop quoi faire contre ces champignons, j'imagine.
Donc déjà, c'est nous, en tant qu'humains, quand on va aller observer des salamandres dans les milieux, si on rien que déjà rincer nos bottes, nettoyer nos bottes quand on va aller... en changeant de milieu pour pas être vecteur de champignons.
Ils se transportent facilement
en fait. Ils pourraient se transporter dans l'eau, sur nos bottes ou sur notre matériel.
Pour l'instant, on n'a pas observé en Bretagne encore ce champignon, donc autant éviter, effectivement. Alors, donc, on sait, bon, pourquoi est-ce que c'est intéressant de la recenser ? Puis on va arriver à cette opération, un dragon dans mon jardin.
Et peut-être juste avant, du coup, on va la recenser aussi, parce que du coup, elle a plusieurs menaces, peut-être juste. Ouais. Du coup, les menaces, bah, ça va être la dégradation de ses habitats, donc à la fois la dégradation du milieu terrestre avec le bocage, mais aussi le milieu aquatique, donc la raréfaction des mares, etc. Et puis, du coup, bah, il va y avoir aussi une menace importante, c'est au moment des migrations. Elle va être victime du trafic routier.
Elle se fait écraser.
Et voilà. C'est souvent à ce moment-là qu'on observe malheureusement des salamandres écrasées sur le bord de la route.
Ouais, d'accord. Alors, l'observation, un dragon dans mon jardin, en quoi ça consiste, cette opération, qui existe depuis plusieurs années ? On n'en avait pas parlé encore sur Radio Évasion.
Non, mais... ça existe depuis plusieurs années. Et donc, nous, je sais qu'à Brest, c'est la troisième année où on va participer à ce protocole. Donc, un dragon dans mon jardin, c'est un dispositif qui a été créé par l'Union des centres permanents pour l'initiative.
Pour l'environnement, les CPIE. Ouais.
Les CPIE, mm-hmm. C'est ça. Et du coup, avec la Société herpétologique de France. Donc, dès qu'on s'intéresse aux amphibiens, on parle d'herpétologie.
Oui, même si l'herpétologie, c'est plutôt pour les reptiles.
Mais reptiles et amphibiens, c'est les deux. Et donc, ce dispositif va viser à améliorer la connaissance et mieux comprendre l'évolution des populations. Et donc, à travers... en proposant un projet de science participative, donc ça veut dire que ça va être de permettre à la population, à des amateurs, à des non-professionnels de participer à un suivi scientifique qui est accessible. Ça va permettre d'avoir un grand jeu de données qui vont être fiables et que les scientifiques vont pouvoir exploiter pour pouvoir voir des tendances sur les populations.
Alors, quand est-ce qu'on peut faire cette observation ? À quel endroit ? Et comment est-ce qu'on fait ?
Et donc, nous, on va parler pour la Bretagne, donc on peut le faire partout en Bretagne. Et donc, tout le monde peut participer à ce protocole. Et donc, ça va être une nuit entre septembre et novembre.
On choisit la nuit,
ouais,
quoi.
Souvent, c'est bien de faire à peu près une heure après la tombée de la nuit pour vraiment qu'il fasse noir et qu'elle ait commencé à sortir. Et donc, l'idée, ça va être de sortir au moment où la nuit, elle est plutôt douce. Et puis, de préférence, après une pluie, parce que comme la salamandre aime beaucoup l'humidité...
Même pendant une pluie, si on est courageux.
Et même pendant une pluie, ouais. si on a envie.
Okay.
Et donc, l'idée, c'est d'aller se promener sur un chemin où on a vu la salamandre une fois, ou alors si on pense que ça peut être un potentiel site où elle peut être présente. Et donc l'idée, c'est de les compter pendant 30 minutes le long de ce chemin et compter le nombre de salamandres qu'on peut croiser.
Très bien. Et qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on recense ça sur Internet, le nombre de salamandres qu'on a compté ?
Et ça, on va pouvoir s'inscrire en renvoyant un bulletin de participation. Et donc, on va pouvoir après retransmettre le nombre de salamandres qu'on a vus. On va pouvoir noter aussi la date, le lieu précis, la température, etc. Et tous ces documents-là sont disponibles du coup sur le site undragon.org.
On mettra le lien de toute façon sur le site internet de la radio. Et vous organisez aussi deux événements pour mettre un peu en relief cette opération Un dragon dans mon jardin qui a lieu, je rappelle, de septembre à novembre. Vous avez le temps, on peut choisir. Mais il y a quand même des points d'orgue.
C'est ça. Donc nous, du coup, à Bretagne Vivante, à Brest, on propose un focus sur les amphibiens au mois d'octobre. Et donc le mercredi 13 octobre à Brest, à 19h, donc au BH Café, on propose un café nature qui portera sur les amphibiens qu'on peut croiser en Bretagne. Et donc, ce sera l'occasion d'en connaître un peu plus sur ces espèces, leur écologie.
Une petite causerie, puis il y aura un quiz, c'est ça ?
Ouais, et puis de tester un petit peu ses connaissances en fin de séance.
BH Café, donc.
BH Café, et puis c'est ouvert à tous et sans inscription. Et puis, du coup, pour participer du coup, à ce dispositif, on organise une sortie Nuit des Dragons, où on va aller compter les salamandres dans le bois de Kerwal-Aguilère.
Parce qu'on sait qu'il y en a là, j'imagine.
Oui, c'est ça. Et puis du coup, ça sera la troisième année où on fait le recensement.
Donc là, c'est le vendredi. Alors, c'est le combien ? C'est
le vendredi 13 octobre.
Ah, et le mercredi, c'était pas le 13, alors du coup.
Le... Ah oui, ouais. Pardon, le 11, pardon.
Le mercredi, c'était le 11, et le vendredi, c'est le 13, à 20h30, ok.
Et donc, ça sera la mise en place du protocole de suivi des salamandres. Et donc, vous pouvez participer sur inscription. Donc, on pourra mettre notre adresse mail pour s'inscrire.
On va sur le site internet de Bretagne Vivante, par exemple.
Aussi. Mm-hmm. Et donc, le lieu précis sera transmis à l'inscription. Et puis, donc, c'est juste prévoir des lampes et des chaussures adaptées.
Les lampes, ça ne les fait pas fuir, les salamandres, non, la lumière, non, ouais. Elles n'ont pas peur.
Ça va.
Et on peut même faire une chasse photo. Alors, ce n'est pas seulement pour les salamandres, d'ailleurs. Là, c'est plus large ça, que
ça. C'est plus large. Du coup, c'est toujours le dispositif un dragon qui est porté par les CPIE qui propose à chacun, sans faire un protocole, si on observe des amphibiens au cours d'une balade, etc., de prendre en photo et de transmettre cette photo-là directement sur le site internet. Et comme ça, on l'appelle... L'espèce sera validée par des scientifiques et contribuera à alimenter le lot de données.
Eh bien, merci beaucoup Julie Bonenfant, animatrice nature de Bretagne Vivante. Donc, la salamandre et puis un autre sujet qu'on retrouvera avec Bretagne Vivante, ce sera certainement le 12 octobre. À bientôt.